les fils d'Isaïe, puis il a vu Éliab, je crois, et tout ça, il a dit, « Oh, certainement, c'est le prochain roi. Il y a le physique, il y a les armes, il y a l'allure, il y a tout ce qu'il faut. » Et Dieu va lui dire à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alléluia! Dieu regarde au cœur et Samuel s'est laissé impressionner. Puis là, il a passé les autres fils d'Isaïe. Puis à un moment donné, il a dit, « Non, Dieu le rejette et tout ça. » Il dit, « T'as-tu un autre fils? » Il dit, « Oui, c'est David qui est entré avec le troupeau et tout ça. » Il dit, « Va le chercher. » Mais il n'y avait pas l'apparence d'un roi. Il n'y avait pas l'allure, il s'occupait d'un troupeau et tout ça. Il dit, « C'est lui! Parce que moi, je regarde au cœur. Je ne regarde pas l'apparence. » Et nous, on est portés à regarder l'apparence, humainement parlant. Ah, si on voit des choses, on regarde souvent à l'allure d'une personne et tout ça. Et ce qui est faible et petit, on est porté à détourner le regard. Et un jour, les disciples ont essayé d'empêcher les personnes d'emmener des enfants à Jésus. Et Jésus dit, « Pourquoi vous les empêchez? » Bien, pour eux autres, c'est des enfants. Donc, des enfants, ils sont petits. Puis, ils ne comprendront pas. Puis, si ça. Fait qu'ils ont voulu les éloigner. Il dit, « Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants. » Alléluia! Parce que je me glorifie à travers ce qui est petit. C'est le choix de Dieu. Alléluia! Dieu Tout-Puissant, Dieu qui domine sur toutes choses, a choisi ce qui est petit. Et Jacques le dit aux chrétiens, il dit, « S'il rentre dans votre assemblée, quelqu'un avec un habit magnifique, avec un anneau d'or au doigt, et qui rentre un pauvre misérablement vêtu, il dit, « Qu'est-ce que vous faites? » Vous êtes porté à dire à ceux que lui qui a tout le bel habit et avec un anneau d'or de venir s'asseoir à une place d'honneur, et à celui qui est misérablement vêtu de rester debout ou de se mettre de côté, où on ne veut pas trop que tu déranges et tout ça. » Il dit, « Ne faites-vous pas exception de personne et ne regardez-vous pas l'apparence. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Amen? Vous êtes d'accord avec ça? On ne regarde pas l'apparence, on regarde au cœur. Et on est comme ça des fois. On va rentrer dans une assemblée, on va regarder au nombre. On va regarder, on va dire, « Oh, il n'y a pas beaucoup de monde ici. Il n'y a pas beaucoup de musique ici. Il n'y a pas beaucoup de ressources ici. La gloire de Dieu n'est pas là. Je vais aller ailleurs. Je vais essayer d'en trouver une plus grosse. » Et là, on va rentrer dans une plus grosse église. Il y a des centaines de personnes. Il y a des beaux tapis. Il y a de la musique. Il y a toutes sortes de techniques. Tout fonctionne et tout ça. On dit, « Oh, la gloire de Dieu est ici! » Parce qu'on regarde au nombre. On regarde à ce qui frappe les yeux. On regarde à ce qui nous oublie, ébloui. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas loin au nombre. Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Alléluia! Dieu ne considère pas la quantité, mais la qualité. Il y avait une publicité un jour qui disait, « La qualité doit y être pour que le nom soit apposé. » Il y en a qui se souviennent peut-être de ça. Hein? « La qualité doit y être pour que le nom soit apposé. » Dans le Seigneur, c'est un peu la même chose. « La qualité doit y être pour que son nom soit glorifié. » Alléluia! Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce qu'il regarde, le Seigneur, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et la qualité dans le Seigneur, c'est un cœur humble, un cœur pur comme David, un cœur selon le cœur de Dieu, un cœur qui veut plaire au Seigneur, un cœur qui veut répondre à l'appel de Dieu, un cœur qui a faim et soif de Dieu. C'est ce que Dieu regarde. Des chrétiens, des femmes de qualité, des hommes et des femmes qui veulent plaire au Seigneur. C'est pas l'apparence, c'est pas la grosseur. C'est pas toutes les ressources, les aptitudes, tous les talents, les instruments ou l'équipement ou tout ce que vous voulez qui impressionne le Seigneur. Mais c'est un cœur humble qui veut se conserver pur Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase de qualité, un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La qualité doit y être pour que son nom soit glorifié, pour que Dieu glorifie son nom. J'ai soif. As-tu soif de Dieu? J'ai soif de Dieu. Alléluia. J'ai soif de sa présence. Que tu sois un homme, une femme, un enfant, un adulte, une personne âgée, que tu as de la difficulté à t'exprimer, que tu n'as pas d'instruction, que tu aies de l'instruction, que tu sois en vue dans le monde ou mis de côté, peu importe. Ce que Dieu regarde ce matin, c'est ton cœur. As-tu soif de Dieu? Alléluia. Et la gloire de Dieu se manifeste à travers des femmes et des hommes de qualité. Alléluia. Amen. Vous savez, dans nos foyers, souvent dans nos cuisines, on a des sets de vaisselle. Il y en a des fois qui sont en porcelaine. Ils sont tellement jolis, tellement beaux, qu'on n'ose pas y toucher. Puis si on y touche, on fait attention, parce qu'ils sont en porcelaine. Ils sont fragiles. Donc, on va leur faire attention, on va le prendre de temps en temps, ces choses. Puis des fois, on va juste les laisser là pour que les gens voient tout ça. Si on l'échappe, ils se brisent. Mais ce qu'on utilise la semaine, c'est des ustensiles ou des assiettes et tout ça de qualité, dans le fond, qui sont inconsables, qui n'ont pas trop d'apparence. Mais si tu l'échappes à terre, ils ne brisent pas. Et c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on se sert régulièrement. Seigneur veut pas qu'on soit des chrétiens de porcelaine. Il veut qu'on soit des chrétiens pure laine. De la race de Dieu. Alléluia. De Christ. De la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'on se brise pas à la moindre occasion. Que parce qu'il arrive une difficulté, une épreuve, on est cassé, brisé, tout ça, on veut abandonner. Oh, la vie chrétienne et tout ça. Parce qu'on est des chrétiens de porcelaine. On pense que la vie chrétienne devrait avoir jamais de problème, pas d'épreuve, pas de difficulté, pas de perte d'emploi, pas de perte d'argent. Oh, que ce soit toujours calme et paisible. Oh, que ce soit comme sur le bord d'un lac, puis l'eau. Oh, on se laisse bercer par les flots. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans des contrées paisibles, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Oh, Jérémie, si tu te fatigues, juste avec des piétons, qu'est-ce que tu vas faire quand ça va être plus tough? Si tu n'as même pas à faire face à des soldats en chevaux avec des chars, mais à des personnes comme toi qui marchent, des personnes qui sont de ta ressemblance, tes proches, tes frères, ta famille, les personnes autour de toi qui t'entourent, ton peuple. Si eux te fatiguent, qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu vas faire face à une armée? Qu'est-ce que tu vas faire lorsqu'il va y avoir vraiment l'ennemi qui t'attaque? Si déjà tu es fatigué par ceux qui marchent, Dieu veut pas qu'on soit des chrétiens de porcelaine. Si pour nous, la vie chrétienne normale nous fatigue, si la vie normale chrétienne te fatigue, si le fait d'aller dans le lieu secret t'épuise, si le fait d'ouvrir le livre est un lourd fardeau, si le fait de te réunir fidèlement puis de faire partie de son assemblée puis de servir le Seigneur est déjà épuisant, que vas-tu faire? Lorsque tu vas être vraiment éprouvé, que vas-tu faire lorsqu'on va t'enlever la liberté? Que vas-tu faire lorsqu'on va te menacer de représailles? Si tu ouvres le livre, si tu parles de Jésus, si tu te réunis, qu'est-ce que tu vas faire dans ce temps-là sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Si pour toi, déjà, ce qui est normal te fatigue. Si ce qui est normal te fatigue. Pas des chrétiens de porcelaine. Mais les chrétiens pure laine, incassables, la race de Dieu, la qualité doit y être.
pour que son nom soit glorifié. Et ça passe par l'humilité, enfant de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de m'approcher de Dieu. J'ai besoin de m'accrocher au Seigneur. J'ai besoin d'être rempli de Dieu. J'ai soif! Dieu aime ça! Hein? Lorsqu'on s'approche de lui, on se réfugie en lui. Il est notre refuge. Nous qui contemplons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, et je vous dis la version du semeur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia! Nous qui contemplons le Seigneur, nous qui nous approchons de Dieu, la gloire va grandissant. La gloire de Dieu se manifeste. Dieu veut qu'un peuple nombreux, Dieu veut multiplier les ressources, Dieu veut multiplier la technique, tout ce que vous voulez. Mais Dieu regarde premièrement au cœur. Alléluia! Et là, on nombre la qualité au lieu de la quantité. Amen? Et je suis sûr, vous êtes tous des frères, des sœurs de qualité. Qualité supérieure par le Saint-Esprit. Amen? Scellé du Saint-Esprit. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Est-ce que c'est cela qu'on devait parler ce matin? Merci Seigneur. C'était les villes de refuge qu'on se posait traiter ce matin. On n'a pas fini les villes de refuge. Ah. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Ça vous dit quelque chose, hein? Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Alléluia, merci Seigneur. Oh, on veut te célébrer, tu es notre retraite, tu es notre refuge. Heureux ceux qui cherchent en toi un refuge. Et ce matin, Seigneur, on veut se réfugier dans ta présence, au trône de ta grâce. Alléluia. Touche nos cœurs ce matin par ton Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous vous souvenez, on avait commencé à parler des 6 villes de refuge que Dieu avait données au peuple en Israël, en Canaan. Et on avait vu jusqu'à date 4 de ces villes. Et si je vous demande de nommer ces villes, je suis d'accord que probablement vous vous en souvenez pas. c'est des noms un peu difficiles. Mais vous savez que on entend parler souvent de réfugiés. Réfugiés politiques, réfugiés climatiques, réfugiés de la guerre et tout ça. Et c'est quoi un réfugié? C'est quelqu'un qui quitte son pays puis qui demande asile dans un autre pays parce qu'il trouve qu'il y a du danger dans son pays pour sa vie et tout ça. Et nous sommes des réfugiés du Seigneur. Et dans le mot « réfugié », il y a le mot « refuge ». Et nous sommes des réfugiés. On est venus au Seigneur parce qu'on sait que dans le monde, oh, toutes les choses de ce monde vont passer et que c'est des ténèbres et tout ça. Puis on s'est tourné vers le Seigneur pour être accueillis par le Seigneur. On a dit « Oh Seigneur, accueille-nous ! On veut te suivre, on veut faire partie de ton royaume. Alléluia, on est des réfugiés. » Et le Seigneur nous accueille. Alléluia, merci Seigneur. Il a établi pour Israël des villes de refuge. C'était pourquoi? Pour celui qui avait tué quelqu'un involontairement, pouvait se réfugier dans une de ces villes. Parce que le vengeur du sang, un des membres de la famille qui avait été tué, proche, avait le droit de venger ce sang et de tuer cette personne, même si c'était involontaire.
Donc, Dieu avait pourvu des villes où ils pouvaient se réfugier et rencontrer les anciens de la ville, leur expliquer leur cas et avoir la preuve justement que c'était volontaire. Puis là, il dit, rentre dans la ville, tu es protégé ici, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et là, ils pouvaient retourner dans leur foyer et tout ça. Ça nous parle de Jésus. Nous sommes de nature pécheresse involontaire. On ne l'a pas demandé. Avez-vous demandé en essayant d'être pécheur? Vous l'avez hérité d'Adam et Ève et tout ça. Qu'on dise, moi, je veux pas être un pécheur de naissance. Tu l'es. Tu as les conséquences. C'est involontaire à toi. C'est tombé sur toi. Mais Dieu a pourvu une place, a pourvu dans sa présence d'être purifié par son sang et d'éviter la condamnation et d'éviter le vengeur du sang et de pouvoir se réfugier. Alléluia. Et on est des réfugiés du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous dites, on a déjà vu ça. Mais le mot hébreu pour refuge, c'est miklat. Vous n'êtes pas obligé de le retenir. Mais ça veut dire refuge et du mot, justement, qui veut dire accueillir, recevoir. Alléluia. Le Seigneur nous accueille. Mais le mot va plus loin. Il vient d'un mot qui veut dire être déformé, être handicapé. Nous sommes des déformés. Nous sommes des handicapés. Et nous sommes venus au Seigneur. Alléluia, pour qu'on puisse être transformés. Dieu nous a formés, je l'ai dit, le péché nous a déformés. Et Jésus est venu pour nous transformer. Alléluia! Alléluia! On peut être transformé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et même, on sait, on est tous pécheurs de nature. Mais en Jésus, on est séparés, mis à part, on est sanctifiés. Vous saviez cela? Vous êtes sanctifiés, alléluia, dans le nom de Jésus. Et le mot Kadesh, une des villes de refuge, ça voulait dire lieu saint consacré. Nous sommes des consacrés, nous sommes des sanctifiés du Seigneur. Le mot Sichem, une des villes de refuge qui veut dire épaule. C'est-à-dire que sous la protection, la domination du Seigneur, l'autorité repose sur les épaules du Seigneur. Et on vient se réfugier en lui, alléluia, afin de vivre cette autorité. Dans le Seigneur, on a vu ça avec le mot Hébron aussi, qui parle de louange dans la montagne de Juda, qu'on est en communion avec Dieu, attaché au Seigneur. Betzer, qui veut dire forteresse, lieu fort. Et nous venons nous réfugier dans notre forteresse. Et je ferai pas un résumé de toutes ces villes parce que on veut terminer à un moment donné. On va faire la cinquième ville, qui est la ville de Ramoth. Dans le territoire, justement, Galilée, dans le territoire de la tribu de Gad. Et Ramoth veut dire élévation, exaltation, lieu élevé. Et Gad veut dire bonheur, heureux et joie. Alléluia. David a dit, Dieu a pour moi mes lieux élevés. Saviez-vous que vous avez des lieux élevés dans le Seigneur? Vous saviez ça? Alléluia. Vous savez ça? Est-ce que vous le désirez les connaître? Parce que lorsqu'on sait que dans le Seigneur, on a des lieux élevés, on devrait avoir à cœur de les connaître. Et David voulait ces lieux élevés. Comme on a chanté ce matin, hein? Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis libéré, il exerce mes mains au combat et tout ça. Alléluia! Il me fait atteindre mes lieux élevés! Alléluia! Et cela se passe par l'exaltation et l'élévation du nom du Seigneur. On se réfugie dans le Seigneur, on vient dans sa présence avec des louanges. On vient pour adorer Dieu. Et c'est le chemin qui nous conduit vers nos lieux élevés. Alléluia! Où qu'on peut justement voir, oh, toutes les bontés, les richesses, la grandeur de Dieu, ce que Dieu a pour nous. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que les malheureux écoutent et qu'ils se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est couvert de honte. On est malheureux. La vie chrétienne devient un lourd fardeau. Nos visages deviennent des faces de bœufs. Tout est rendu pénible et affligeant quand on tourne vers lui le regard. Non, c'est pas ça qui est écrit. Quand on tourne vers lui les regards, on est... Oh! Rayonnant de joie. Alléluia! Je ne vois que de la joie. Quand on tourne vers lui les regards, santé, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux et non malheureux, celui qui cherche en lui un refuge. On l'a chanté ce matin. Je me suis dit, est-ce que Lynn sait ce que je vais prêcher un matin?
Sylvie m'a dit, non, elle n'est pas supposée savoir. Lynn? Oh, Lynn est tellement préoccupée. C'est bon de voir. Bonjour. Vous êtes avec nous?
Oui.
Ah! Non, non, Lynn. Lynn, c'est juste que je suis en train de parler de toi. Ah oui, j'ai parlé de toi. J'ai dit que tu connaissais presque mon sermon ce matin à travers la louange. Parce qu'elle a parlé de joie. Et on se réfugie dans le Seigneur. Et lorsqu'on exalte le Seigneur, qu'on s'approche de Dieu, eh bien, on est rayonnant de... Alléluia. Merci, Seigneur. Le visage ne se couvre pas de honte. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et la joie du Seigneur sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et la joie du Seigneur sera votre force. On trouve ça en Isaïe puis en Néhémie. Quand on tourne vers lui les regards, quand on est calme et confiant dans la parole de Dieu. Et qu'on vient au Seigneur, et qu'on regarde à lui. Oh, la joie du Seigneur nous est départie. Une huile de joie vient nous couvrir. Et c'est notre force. Alléluia! Peut-être les épreuves vont être encore là. Mais si on a la joie du Seigneur, alléluia! Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Il savait, Paul, que des épreuves l'attendaient à Jérusalem. Ça m'importe peu. L'important, c'est d'accomplir ma course avec joie. Alléluia! Avec la joie du Saint-Esprit. On parle pas de jeter un coup d'œil sur le Seigneur. On parle de tourner nos regards. Quand quelqu'un tourne ses regards, il fixe le Seigneur. Il regarde au Seigneur. Il regarde pas au temps et aux circonstances. Il regarde pas aux épreuves. Il regarde pas aux difficultés. Mais il fixe ce regard sur le Seigneur. On devient rayonnant de joie. C'est pas un coup d'œil. Oh! Oh! Seigneur est ici. Correct. Bye-bye. Je m'en vais. J'ai d'autres choses à faire. Tu peux pas être rayonnant de joie. T'es rayonnant d'inquiétude, rayonnant de doute ou d'incrédulité, mais t'es pas rayonnant de joie. Parce que la joie vient en fixant nos regards sur le Seigneur comme Moïse, qui a vu le buisson qui brûlait, puis qui a dit, oh, faut que je détourne le regard, là, faut que je vois, je veux savoir qu'est-ce qui se passe là. Oui, mais t'as un troupeau t'occuper, laisse faire le troupeau. Moi, je vois un buisson qui brûle et qui se consume pas. Fait que le troupeau attendra. Et il s'est rendu sur la montagne. Il a fixé ce regard. C'est comme si on voit de loin quelque chose de brillant. On va vouloir savoir c'est quoi. Toutes les autres choses, on le met de côté pour aller voir c'est quoi. Et lui est allé voir. Il s'est approché. Et là, il a entendu, lorsque Dieu vit que Moïse détournait le regard vers le buisson, il dit, Moïse, Moïse. Il a reçu des révélations. Il a reçu des révélations de l'appel de Dieu. Tu vas aller vers Pharaon, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est là qu'il a reçu des révélations. Parce qu'il a détourné le regard. Et le mot hébreu ici veut dire qu'il était fixé sur, qu'il a porté son attention, qu'il a examiné, qu'il a inspecté, qu'il a voulu savoir que c'est accroché ce buisson. Je veux savoir. Je veux connaître. Et lorsque Dieu voit ça, lorsqu'il voit des frères, des sœurs, ses enfants, qui détourne le regard, qui regarde pas aux choses de ce monde, mais qui viennent à lui, il se révèle, il se révèle, il se révèle par nos noms. Mais plus que ça, parce qu'on peut dire, ah, Dieu me connaît par mon nom, non, c'est merveilleux, Dieu m'aime, je suis l'objet de sa bénédiction, je suis sur le pectoral du cœur de Dieu, je suis une pierre précieuse, Jésus pense à moi. Oui, c'est bon. Mais, ça doit pas s'arrêter au nom. Ça doit pas s'arrêter à ce que Jésus connaît nos noms. Lorsqu'on sait que Dieu connaît nos noms, qu'on est des enfants de Dieu, on veut connaître plus. Je veux connaître le plan de Dieu. C'est quoi tu as pour ma vie? C'est quoi tu veux que je fasse? C'est quoi les décisions? C'est quoi? Comment je peux glorifier ton nom? Comment je peux vivre pleinement la remplie du Saint-Esprit ici-bas? Alléluia, je veux connaître ce qui s'attache à ton appel. Je veux m'attacher aux choses d'en haut, m'affectionner aux choses d'en haut. Je fixe mes regards sur le Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on est rayonnant de joie. Alléluia. On veut connaître sa présence. Oh, vous savez que vous avez reçu une nouvelle vision en venant à Jésus. Le voile que vous aviez, qui vous empêchait de voir, est tombé. Quelle faculté merveilleuse de voir l'invisible. Quelle faculté merveilleuse de voir l'invisible. De voir dans les lieux célestes. Vous et moi, si vous êtes enfants de Dieu, vous avez cette vision. Pourquoi regarder aux choses d'en bas? Quand on peut regarder aux choses d'en haut, on a nos jumelles de la foi. On peut voir ce qui s'attache. Moïse a renoncé au palais de Pharaon. Il a préféré souffrir avec le peuple parce qu'il voyait comme voyant l'invisible. La Bible nous dit en hébreu. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia! Voyez-vous celui qui est invisible? Sentez-vous la présence du Seigneur? Alléluia! Jésus est ici. Jésus dans ma vie. Alléluia! Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Alléluia! Oh, nous pouvons vivre la présence de Dieu à chaque jour et rayonner de la joie du Seigneur. Alléluia! On peut se réfugier dans le Seigneur et l'adoration nous amène dans nos lieux élevés. L'adoration de la foi. Pas l'adoration juste du feeling. Pas l'adoration juste du sentiment. Pas l'adoration nécessairement juste des émotions, l'adoration de la foi. Là où tu es dans ta connaissance de Dieu, tu peux adorer Dieu. Peu importe si tu connais pas tout encore ce qui s'attache à son nom, si tu n'as pas encore vécu toutes les touches personnelles du Saint-Esprit, peu importe, le juste vivra par la foi. Le juste adorera par la foi. Le juste célébrera par la foi. Alléluia, sans avoir toute la connaissance du nom de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est Dieu et que Dieu mérite la louange et l'adoration. Je le fais. Ah ben moi, je ne suis pas hypocrite. J'attends de connaître davantage. J'attends d'avoir une touche, une action du Saint-Esprit. Tu vas attendre longtemps. Moi, je vais adorer Dieu que toutes ces choses vont m'arriver. Ça va arriver au ciel. Et tu vas-tu attendre au ciel pour adorer Dieu, puis te priver de tes lieux élevés, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Tu connais Dieu? Dieu est dans ton cœur, il est digne d'adoration. Et tu le fais par la foi. Tu l'adores par la foi. Tu le crois en sa parole, et c'est dans le calme et la confiance que sera ta force, et la joie du Seigneur sera notre force. Ça va mal le matin? Tu files mal? Tu files pas pour louer? Bien, raison de plus de louer. Parce que ça fait de mal, tu dis, Seigneur, je m'arrête pas à ça, je fixe mes yeux sur Jésus. Ne te laisse pas voler ce matin. L'ennemi, le voleur, celui qui veut t'enlever ta joie, il est content, lui, quand tu n'as plus de joie. Ah, il est triste, il est abattu, il est écrasé, ah, je suis content. Il dit, je ne sais pas s'il le dit comme ça, mais on veut que ça se réjouisse dans le ciel, que c'est dans la présence de Dieu qu'il y ait la joie. Alléluia, que les anges et tout ça se réjouissent. Amen. Ah, oh, vous connaissez le principe d'inversion. Il dit, je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai, je leur donnerai de la joie au lieu du chagrin. Ça, c'est un processus du Seigneur d'inversion. Et c'est nous qui produisons ça. Lorsqu'on change nos attitudes, lorsqu'on commence à louer Dieu par la foi, à adorer le Seigneur, alléluia, à dire « Seigneur, tu es digne ». Et Dieu fait des miracles dans nos vies. Et ce passage n'est pas juste pour la fin des temps, je changerai. C'est maintenant que ça se passe, c'est le temps de la grâce. Jésus s'est présenté dans la synagogue de Nazareth, puis a dit, Isaïe 61, verset 1, 2, 3, « Et je suis venu, la lumière de ce monde, pour changer le deuil en allégresse, en joie, une huile de joie. » Il dit, « Aujourd'hui, maintenant, ce passage est accompli. » Alléluia! Ce n'est pas dans le futur. Il n'a pas lu la prophétie d'Isaïe pour dire, « Plus tard, ça va arriver. » Il dit, « Maintenant, cette parole que je viens de vous lire est accomplie. » Alléluia! C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que le deuil disparaît. Et que la joie du Seigneur peut nous être départi. Alléluia. La joie du Seigneur ne se dissocie pas du Seigneur. Êtes-vous d'accord? On ne peut pas dissocier la joie du Seigneur avec le Seigneur.
Moi, je veux la joie du Seigneur, mais je ne veux pas prier. Moi, je veux la joie du Seigneur, mais je ne veux pas venir dans sa présence. Moi, je veux m'occuper de toutes mes affaires dans ma vie, m'occuper de mes propres maisons, m'occuper de mon propre travail, m'occuper de mes propres affaires, ma propre retraite, mes propres comptes de banque. Mais je veux la joie du Seigneur. Ça ne marche pas. Parce que la joie du Seigneur va avec le Seigneur. Si tu veux la joie du Seigneur, il faut que tu t'accroches au Seigneur. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Rendez grâce à toutes choses. Amen. Parce que la joie du Seigneur sera votre force. Oh, est-ce qu'on va se rendre jusqu'au bout? Vous savez, dans ce monde, notre joie est attachée à des éléments extérieurs. Si j'ai plus d'argent, si j'ai un meilleur travail, si j'ai trouvé l'âme sœur, si j'ai plus de biens, si j'ai plus de santé, tout ça, oh, me semble, je vais être comblé puis joyeux. Ça, c'est des joies venant de l'extérieur. Oui, ça te donne une certaine joie, mais pour un temps limité, parce que la chair à l'intérieur dit, tu as obtenu ce que tu voulais, j'ai d'autres choses qu'il faudrait que tu aies. Il manque encore quelque chose. Je te dis, il te manque encore quelque chose. Il te manque un deuxième skidoo. Ça te prendrait un petit peu plus. Un petit peu plus de ceci. T'as 3 sets de vaisselle, ça t'en prendrait un quatrième. T'as 3 paires de souliers, ça t'en prendrait 5 pour être heureux. Ça, c'est des éléments extérieurs. Mais Dieu veut que la joie vienne de l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Soyez toujours joyeux, ça veut dire vivez toujours la joie du Seigneur. Laissez le Seigneur vous remplir de sa joie. Réfugiez-vous en l'Éternel. Alléluia. Une joie durable qui vient de l'intérieur. Oui, merci Seigneur pour tes bénédictions matérielles. C'est merveilleux. Alléluia. Oh, mais ce qu'on veut, c'est une joie intérieure. La joie du Saint-Esprit sera votre force, votre force, votre force. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie. Oh! Je le relis. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Et dans une autre version, il dit, « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. » Alléluia! Avec joie! Traverser les épreuves avec joie des chrétiens pure laine, pas des chrétiens de porcelaine, des chrétiens qui vont puiser leur joie dans le Seigneur, alléluia, et qui font face. Ça, c'est un témoignage pour ceux qui sont dans ce monde. Comment ça, il peut pas être joyeux? Il veut pas être heureux. Pourquoi il est heureux? Il lui manque ceci, il lui manque cela. Il y a des épreuves. Parce que la joie du Seigneur est dans son cœur. Alléluia. Parce qu'il s'est réfugié dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il connaît le Seigneur. C'est pas pour rien que le Seigneur demande de changer nos attitudes. Puis de se contenter de ce qu'on a. Et de s'approcher du Seigneur. Et d'aller puiser en lui notre joie. Parce qu'il dit un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Ça te rend malade. Mais Dieu, un cœur joyeux est un bon remède. Change ton attitude. Approche-toi du Seigneur ce matin. Alléluia. Viens te réfugier en Christ. Il y a de la joie pour toi. Ça riait, ça avait du fun dans le foyer d'Abraham. Il y avait du plaisir. Pas toujours du bon plaisir, mais il y avait du plaisir. Ça riait. Sarah, elle rit. Ismaël, elle rit. Abraham, elle rit. Ça riait tellement qu'on dit Isaac, on va l'appeler Isaac. Isaac veut dire il rit. Donc tout le monde riait. Ça avait du fun. À un moment donné, c'est Ismaël qui rit. Ismaël, il rit, mais il rit. Il rit de Sarah. Il rit d'elle, il se moque des choses de Dieu et tout ça. Il se moque la bénédiction et tout ça. C'est pas ce genre de rire que Dieu veut qu'on ait. Il dit, chasse, chasse-la, a dit Sarah, chasse Agar et son fils qui s'en allent. Je veux plus y voir. C'est des moqueurs. Et Abraham a dû les chasser du foyer et tout ça. Le rire qu'on a, enfant de Dieu, c'est pas un rire de moquerie. On se moque pas de la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'on se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. C'est comme ça, c'est le principe. On peut pas rire. Ah, moi la parole de Dieu, ah, moi la sainteté, ah, moi la sanctification. Je suis pardonné, puis gloire à Dieu, puis je continue à faire ce que je fais. On se moque pas de Dieu. C'est pas le rire que Dieu veut te donner. Un jour, le peuple était en train de pleurer à la tente d'assignation avec Moïse parce qu'il y avait du péché, des femmes étrangères et tout ça. Et le peuple demandait pardon au Seigneur parce qu'il y avait une plaie. Puis Dieu est en train de vouloir guérir son peuple. Mais il y a un homme qui sort, lui, avec sa femme, une femme étrangère. Puis il se promène devant tout le monde pendant que les gens se repentissent. Ah! Oh, pas grave! Ah, moi, je suis un juif et tout ça, et il s'en va dans sa tente, puis il se moque. Il se moque de ce que le peuple est en train de faire. Finé, il n'a pas aimé ça du tout. Il a pris une lance et tout ça. Il est allé dans la tente. Il les a percés toutes les deux. Il les a tués toutes les deux. La plaie s'est arrêtée parmi le peuple. Et Dieu a dit, Moïse, tu fais une alliance de paix avec lui. Je fais une alliance de paix avec lui. Puis toutes ses générations, parce qu'il a été animé de mon zèle. Il ne s'est pas moqué. Et même, il y a eu une horreur. Oh, la moquerie. Et il a voulu la paix. Et Dieu a étendu sa paix. C'est une image pour nous, enfants de Dieu. On ne rit pas du fait de pécher ou de faire des choses et de se cacher sous la grâce de Dieu. Et de dire, oh, c'est pas grave, j'ai la grâce de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas ce genre de rire que Dieu veut qu'on ait. C'est pas le rire de l'incrédulité non plus. Lorsque Sarah a entendu qu'elle aurait un enfant, tout ça, elle s'est mise à rire. L'ange a dit, tu ris? Non, je ris pas. Tu ris? Non, je ris pas. Comment je pourrais avoir un enfant? C'est impossible, c'est beau, c'est une belle promesse. Mais regarde, je le réponds. La preuve qu'elle est incrédule, c'est qu'elle a envoyé Abraham avec Agar. Elle n'a pas cru vraiment ce que Dieu lui disait. C'est un rire d'incrédulité. C'est un rire de doute. Ah, oh, ça n'arrivera pas. Oui, c'est beau ce qu'on dit ce matin. C'est beau les signes et les prodiges et les miracles. C'est beau toutes ces choses, les dons du Saint-Esprit. C'est beau la puissance d'en haut. Mais c'est pas pour nous aujourd'hui. C'est pour ces dates. On peut pas vivre ça aujourd'hui. On ne rit pas de ça. On n'a pas un rire incrédule, comme ce officier du roi. Même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, ça n'arrivera pas, Élisée. Ça n'arrivera pas qu'il va avoir de l'abondance demain, en 24 heures. Il dit, tu vas le voir, mais tu ne le profiteras pas. Parce que tu as ri des promesses de Dieu. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Tu veux voir la gloire de Dieu, il faut croire sans voir. Sinon, si tu attends de voir pour croire, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir. Tu vas voir, mais tu ne peux pas recevoir. Tu dois croire sans voir la gloire et les promesses de Dieu. Et Abraham a ri lorsque l'ange et tout ça lui a dit qu'il y aurait un enfant, tout ça. Mais lui, ça n'a pas été le même genre de rire. Parce que lorsqu'on lui a dit ça, il s'est prosterné devant Dieu. Il a tombé sur sa face. Comment pourrais-je avoir, comment vivre une telle bénédiction? Oh, la grâce que Dieu m'accorde, c'est merveilleux. Son rire était différent. Parce qu'il est tombé sur sa face pour adorer Dieu. Il y avait du trouble à comprendre comment Dieu allait faire ça. Oh, comment il va faire? Mais il anticipait, espérant contre toute espérance. Il ne doutait point, mais il rit. Alléluia! Merci Seigneur pour tes promesses. Oh, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Un rire de la foi. Et lorsqu'il y a eu Isaac, il l'a vu, il dit, il rit. Je l'appelle, il rit. Alléluia!
C'est ce que Dieu veut pour nous. La joie du Seigneur sera votre force. Mais on doit se réfugier dans le Seigneur. Aimez-vous rire? On aime rire, hein? Hein? On aime ça rire, mais on peut rire du rire divin parce que Dieu rit. Dieu, sur son trône, rit. Il se réjouit dans ses enfants. Vous savez ça, le mot en hébreu, il se réjouit de ses enfants, c'est qu'il trouve du plaisir, de la joie. Il est heureux de nous voir. Il est heureux de son peuple. Puis il veut nous partager cette joie. Il dit, venez à moi et tout ça, je vais vous donner de ma joie, une huile de joie. Moi, je me réjouis, réjouissez-vous! Soyez toujours joyeux! Que la joie du Seigneur soit votre force! Mais c'est dans la calme et la confiance que sera votre force. C'est en venant au Seigneur. Alléluia! Oh, merci Jésus! On se réfugie dans sa présence et on connaît nos lieux élevés dans la présence du Seigneur. Amen! C'était la cinquième ville. Êtes-vous d'accord à passer à la sixième? Rapidement. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Ah, je m'en viens. Vous savez, des fois, je pense que on a des craintes de se réjouir. On a peur, des fois, de se réjouir. On se lève le matin, on est en forme, il y a un beau soleil, tout est beau. Là, t'esquisse un sourire. Ah non, je peux pas rire. Le malheur va tomber dessus. Faut pas que je me réjouisse trop, pour moi, il va y avoir un malheur. Ça va, mais ça pourrait aller mieux. On veut pas trop se réjouir. Ça va-tu? Oui, ça va. Mais ça pourrait aller mieux. Y a-tu quelque chose qui... Non, non, mais ça va. Mais ça pourrait aller mieux. J'ai peur de trop me réjouir. Parce que tout d'un coup que le malheur me tombe dessus, ben je préviens. Je refuse de me réjouir. Hein, encore, superstition. Tu n'auras pas moins de malheur si tu te réjouis, puis tu n'auras pas plus. Tu vas en avoir autant. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. On peut se réjouir, enfant de Dieu. Alléluia. N'ayez pas peur de vous réjouir. C'est correct. Amen. Qui va vous en vouloir de vous réjouir, sinon l'ennemi? Et cette sixième ville qu'on voit, c'est la ville de Golan, qui veut dire passage, et Manassé, qui veut dire qui fait oublier. Eh bien, c'est ça, on se réfugie dans le Seigneur, qui on s'exile, le mot veut dire exil, aussi on vient dans le Seigneur, on se réfugie en lui, puis il nous fait oublier. Il nous fait oublier les choses de ce monde. Il nous fait oublier notre ancienne vie, toutes les choses dans lesquelles on se réjouissait avant. Il nous fait oublier parce qu'on se réfugie dans le Seigneur. C'est dur pour un chrétien d'oublier les choses de ce monde. Et c'est pour ça qu'on se réfugie dans le Seigneur. On veut oublier. On veut oublier ce que le monde nous offre. On veut oublier les choses. On veut oublier les affaires de cette vie parce que ça va tout passer. Un des problèmes les plus difficiles, c'est justement de se croire éternel ici-bas, de penser que tout ce qu'on s'amasse va demeurer, de penser qu'on est éternel. Et on s'attache à ces choses, on s'attache aux choses de ce monde. Puis à un moment donné, oh, on perd la présence de Dieu. Plus tu t'approches du Seigneur, plus tu t'éloignes des choses du monde. Amen. Plus tu t'attaches au Seigneur, plus tu vis un détachement. Un attachement amène un détachement. Si tu t'attaches au Seigneur, tu t'éloignes des choses du monde. Si tu t'attaches aux choses du monde, tu t'éloignes du Seigneur. Est-ce que les choses du Seigneur t'intéressent? Regarde, si ça t'intéresse pas, regarde à quoi tu t'attaches. Et le Seigneur veut qu'on se détache. Qui fait oublier les choses qui nous entourent. On a besoin d'oublier. Paul a dit, je regarde toute chose comme une perte. Toute chose comme une perte. Est-ce que vous regardez toute chose comme une perte? Il parlait de quoi? Il parlait de sa réputation. Il parlait d'être hébreu. Il parlait d'être en vue. Il parlait de tous les avantages qu'il avait ici-bas. Il parlait de toute d'avoir été élevé au pied de Gamaliel. Il parlait de tous les privilèges qu'il avait, son nom et tout ça. C'est un homme réputé, un homme qui aimait la loi, un homme zélé et tout ça, que les gens l'approuvaient, tout ça. Il dit, je regarde tout ça comme une perte. C'est fini! Tout ce qui me donnait des avantages, tout ce que je bénéficiais ici-bas est une perte.
à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia! Et la mort m'est un gain. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. T'as-tu peur de la mort? C'est une perte, les choses de ce monde. Mais le gain, c'est dans le Seigneur. Il dit, la mort est même un gain. La mort m'est un gain. Alléluia! C'est pas un détachement, ça. Lorsque tu es capable de dire, la mort m'est un gain, si je meurs aujourd'hui, c'est un gain. Parce que je vais me trouver face à face avec le Seigneur. Je vais vivre ce caillou nouveau. Je vais vivre ce nom nouveau. Je vais vivre cette relation nouvelle. Je vais vivre, oh, le nouveau corps, la présence du Seigneur. Je vais le voir face à face. La mort m'est un gain. Alléluia! Pas une perte. J'ai pas peur de la mort. Parce que c'est la dernière chose qui m'empêche de voir le Seigneur face à face. Alléluia! S'attacher au Seigneur nous détache des choses de ce monde. J'ai dit mercredi, il y a quelque chose pour moi de plus élevé que l'adoration. Vous vous souvenez de ça? Là, ils ont tous voulu savoir, mais j'ai dit ça va la dimanche. Il y a quelqu'un, on dit souvent l'adoration, c'est le point culminant. Pour moi, c'est pas l'adoration le point culminant avec le Seigneur. J'ai entendu ça, la mort. C'est lorsqu'on a un détachement complet des choses de ce monde. Et on est attaché au Seigneur. Là, on est rendu dans nos lieux élevés. Là, on est rendu à un point culminant. Ce que j'appelle le point de rupture. J'ai coupé avec toutes les choses de ce monde. Alléluia! Je vis dans ce monde, mais je fais pas partie du monde. Tout ce qui m'intéresse, c'est de glorifier Dieu. Tout ce qui m'intéresse, c'est la présence de Dieu. C'est de manifester la gloire de Dieu. C'est que mes membres servent pour la louange à la gloire du Seigneur. Alléluia! C'est ce qui m'intéresse. J'ai atteint le point de rupture. J'ai coupé avec les choses de ce monde. C'est fait. Alléluia! Toute chose est une perte. Et l'adoration est le chemin qui nous amène là. L'adoration, c'est ce qui nous amène à ce point de rupture. De louer et d'adorer Dieu, de se trouver dans sa présence. Oh, les choses qui m'entourent, oh, ne valent plus rien pour moi. Quand je regarde ta sainteté, que je contemple ta beauté, ouh, alléluia, on était dans les lieux célestes tantôt, dans la louange, amen. Plus rien ne nous préoccupait que la présence de Dieu. Un attachement amène un détachement. Si tu t'attaches à maman, tu t'éloignes de Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, tu t'éloignes de maman. Alléluia, c'est ce que Dieu dit. Tu peux pas t'attacher aux deux. Tu vas haïr l'un et aimer l'autre. Si tu t'attaches à Dieu, tu vas détester ce que le monde t'offre. Tu vas le haïr. Oh, tu vas avoir de la haine pour les choses de ce monde. Parce que t'aimes tellement le Seigneur. Pas pour les gens, pas de la haine pour les gens. Au contraire, de l'amour. Mais de la haine sur ce que l'ennemi nous offre, sur les invitations de l'ennemi, tout ça. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Prenez le temps de vous approcher de Dieu. Parce que c'est pas une perte de s'approcher de Dieu. C'est un plus. C'est un gain. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'était les 6 villes de refuge. Je l'ai dit dernièrement, je le répète. On part tous égaux au fil de départ dans le Seigneur. Lorsqu'on accepte Jésus, on est tous égaux. On peut tous vivre le rempli du Saint-Esprit. On peut tous servir le Seigneur. On peut tous marcher dans la justice, dans l'humilité et faire l'œuvre de Dieu, manifester les dons et le fruit. Tout ça. On peut tous. On est à la ligne de départ. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Mais la différence, c'est la ligne d'arrivée. On n'est pas tous égaux lorsqu'on arrive. On n'est pas tous égaux lorsqu'on arrive. Il y en a, la Bible dit, qui vont être confus. Et éloigné de Dieu. Et Jean a dit, oh, afin qu'on ne soit pas confus et éloigné de Dieu, mais qu'on soit pourvu et revêtu des vêtements de sainteté, vêtements de louange. Oh, c'est pas une perte le retour du Seigneur. Dire, oh non, Jésus revient, je suis pas prêt. Non, au contraire, je suis prêt. Alléluia. Je suis prêt ce matin si Jésus revient. Es-tu prêt? Es-tu revêtu par le manteau de Dieu? Es-tu revêtu de la puissance d'en haut? Alléluia. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'on peut se réfugier dans le Seigneur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia! Quand vous venez au Seigneur, dites-vous, vous n'avez pas perdu votre liberté de choix.
Vous avez le choix encore, puis vous le savez jusqu'au retour du Seigneur. Tu peux choisir le bien ou le mal. Tu peux choisir de t'approcher de Dieu ou de rester loin. Tu peux t'approcher, tu peux choisir d'ouvrir le livre ou de le fermer comme tu veux. C'est ton choix. Mais les choix ont des conséquences. Et il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Il dit, demeurez en lui. C'est ce qu'il dit. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Il dit ça des chrétiens. Demeurez en lui, afin que vous ne soyez pas confus et éloignés de lui. Demeurez en lui. Demeurer en lui, c'est de faire de lui notre refuge. C'est de s'approcher de Dieu. C'est venir dans sa présence. C'est avoir faim et soif de Dieu. C'est de faire de l'Éternel nos délices. L'Éternel est mon souverain bien. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Oh, mon âme soupire. Quand y paraîtrai-je devant toi? Quand irai-je et paraîtrai-je devant toi? J'ai hâte. J'ai soif. J'ai soif. Alléluia. On n'est pas parfait. Et heureusement, il est parfait. Et pourquoi on se réfugie en lui? Parce qu'on n'est pas parfait. Et heureusement, il est parfait. Donc, on peut se réfugier en lui. Jean, on dit que Jean, c'est l'apôtre de l'amour, et je termine avec ça. Jean est l'apôtre de l'amour, mais si vous regardez sa vie, il n'y avait pas beaucoup d'amour là. Jean, c'est le frère de Jacques. Jean et Jacques. Jean et Jacques qui ont dit, Seigneur, permet qu'on le feu descende du ciel. Ce village-là, on veut le consumer. Toute la gang, tout le village, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, on veut les consumer. C'est Jean, sur la peau de l'amour, qui a dit ça. Et Jésus a dit, tu sais pas, là, vous savez pas de quel esprit vous êtes animé. Là. Ça marche pas, ton affaire. Ça marche pas, votre affaire. Bon, je suis pas venu pour tuer les gens, moi, là. Je suis venu pour les guérir, pour les sauver. Allons ailleurs, ils veulent pas nous accueillir, c'est correct, on passe ailleurs. Oh, Jean, c'est celui, un jour, qui a dit à quelqu'un, « Hey, t'arrêtes de chasser des démons au nom de Jésus. On veut pas que tu fasses ça. » Et ils ont été trouver Jésus, pensant que ça lui ferait plaisir. « Hein, Jésus, on a dit à un homme qui chassait en ton nom, on lui a dit d'arrêter. » Jésus dit, « Hey, pourquoi vous l'empêchez? S'il chasse des démons à mon nom, il ne peut pas parler contre moi. S'il ne parle pas contre moi, il parle pour moi. Ne les empêchez pas. » Vous voyez, Jean pensait avoir pris une bonne initiative. Il n'a pas pris une bonne initiative. Jean, c'est celui qui, avec les autres apôtres, a dit, « C'est moi le plus grand. » Pierre a dit, « C'est moi le plus grand. » Un autre a dit, « C'est probablement moi le plus grand. » Là, Jésus a fallu... Ah, il était patient, Jésus. Il a fait face à tout ça, ses propres disciples. Il a dit, écoutez, celui qui sort est le plus grand. C'est lui qui s'humilie le plus grand. C'est Jean, ça. Il fait partie de cette gang-là. Pourquoi Jean est devenu le disciple aimé du Seigneur? Ah, le disciple que Jésus aime. C'est le disciple que Jésus aime. Pourquoi il aimait Jean? Parce que Jean collait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Parce que Jean avait bien des défauts, des problèmes, mais il voulait changer. Parce que Jean voulait connaître le cœur de Dieu. Parce que Jean était prêt à se repentir. Parce que Jean était prêt à avoir une transformation dans sa vie. On n'est pas parfait, mais est-ce qu'on est des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu? On veut pencher notre tête sur Jésus. Je dis, Seigneur, transforme ma vie. Fais quelque chose. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Moi, 40 années de vie chrétienne m'ont appris simplement ceci, j'ai encore plus besoin du Seigneur. Seigneur, on est tellement loin. J'ai besoin de toi. Et Jean est devenu celui qui a écrit l'Évangile de Jean, les trois épîtres de Jean et l'Apocalypse dans l'île de Patmos. Il a reçu les révélations du futur et tout ça pendant qu'il avait près de 90 ans. Il était là exilé pour sa foi, puis il reçoit les révélations de l'Apocalypse. Alléluia! Oh, alléluia! Ceux qui collent leur
tête, qui s'approchent de Dieu, qui veulent se coller sur le Seigneur, reçoivent les révélations du Seigneur, qui se détournent leur regard pour dire, pourquoi ça brûle comme ça? Pourquoi? Oh, je veux connaître et tout ça. Quand il vit qu'il détournait les regards, il dit, Moïse, Moïse, voici ce que je veux faire avec toi. Alléluia, voici ce que je veux accomplir dans ta vie. Alléluia. Soyons des disciples selon le cœur de Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur que ce matin, oh, on a encore plus une révélation de toi. Tu es notre refuge. Tu es notre refuge. Oh Seigneur, on veut purifier nos cœurs. Ce que tu demandes, c'est un cœur pur. Ce que tu demandes, c'est qu'on se conserve pur. Qu'on soit des personnes de qualité. Et Seigneur, on veut tout simplement te dire, sonde-nous, connais nos cœurs, éprouve-nous, regarde. Si on est sur une mauvaise voie, Seigneur, dirige-nous sur la bonne. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. On veut t'adorer, te célébrer, Seigneur. On veut venir dans ta présence. On aime ta présence. On aime la touche de ton Saint-Esprit. On aime la paix, la joie et tout ce que tu as pour nous ce matin. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia.